J'ai tous les 2 jours le rapport d'une agence. Ma femme et ma fille vont bien. Elles vivent tout à fait retirées et ne reçoivent que Frédéric. Un petit journal a conté l'aventure avec des initiales, la fugue d'un compositeur. Guillaume m'a apporté le journal, crayonnette bleue. Je suis traité de hautain artiste, dédaigneux de la publicité. En somme, excellente presse. Là-dedans, sans doute pour corser le récit, Aimée est présentée comme une illustre cantatrice mondaine, veuve d'un clubman. Et je file à Surton le parfait amour à Palerme. Rien n'y manque. Guillaume, ton ami va devenir célèbre. On a vu des choses plus drôles. Je ne suis pas artiste, mais il me semble que si j'avais été artiste, je ne serais jamais embourgeoisé. Ce cloquetier est idiot. Parce qu'il a beaucoup lu et beaucoup retenu, parce qu'il est défiguré, on lui préférerait volontiers du génie. Je vais apporter mes bouquins, je vais rester avec toi. Lui et Aimée s'entendent fort bien, avec, de la part de Cloquetier, une nuance de galanterie, assez surprenante chez cet ours. Sans vouloir se l'avouer, il aspire sans doute à ma succession. Je l'ai béni. Étienne, me confie-t-il en secret, je suis pauvre, il faut tout prévoir. Admets que ton état, sans devenir encore inquiétant, empire. Ne serait difficile de ne pas prévenir qui de droit. Mais tu n'aurais pas à prévenir qui de droit. Il n'y a comme qui de droit que Madame Barge, et ta fille. Après crevaison, tu lui enverras une dépêche. C'est promis. Promis. Jure. Je te le jure. Au surplus, il s'en moque. Sa responsabilité est dégagée. Quel être d'élite que Madame Barge, l'eussent-ils. Car enfin, t'es pas rigolo. En ce moment, mon pauvre vieux, elle prend ça du bon côté. Tu sais pas, elle m'a dit tout à l'heure quelque chose d'exquis. Ne lui répète pas que je te l'ai raconté, elle me gronderait. Il m'a dit, je le sauverai, et alors je l'aurais mérité. Chic, hein? Quelle assure! C'est pas, comprends-moi bien, que tu aies besoin d'être sauvé. C'était une façon de parler. T'es mal foutu, n'est-ce pas? Eh bien, je t'envie. Tu ne t'en doutes guère, mais rien n'est plus épouvantable que d'avoir été réduit toute sa vie à l'amour vénal. Pour moi, un baiser se paye et le reste, poésie pour les livres. J'en ai tant l'habitude que je parle à toutes les femmes, même à celles qui ne me sont rien, comme si au bout de notre conversation, je devais ouvrir mon portefeuille. Je leur parle comme à des fournisseurs, tiens. Je suis habitué à des choses si pénibles. Si je dis, comme le ciel est bleu, on me répond, oh, ça me fait penser que j'aurais besoin d'une robe bleue. Au bout de toutes les phrases qu'elles me disent, il me semble voir un hameçon, un gros sou. Mais Madame Barge, oh, Madame Barge! Et il fait retentir un petit sifflement admiratif et conclut. Elle impose le respect. Maintenant, quand tu seras sur pattes, elle changera peut-être. C'est si drôle, ces animaux-là. Une petite société se forme à mon chevet. Docteur Grenu, Guillaume et Aimée. Pour le médecin et pour Guillaume, je touche presque au royaume des morts, et ils me considèrent déjà comme une chose. Aimée ne veut rien savoir. Elle combat, soutenue sans doute par cette idée. On dira que je ne l'ai pas soignée aussi bien que sa femme. Son amour-propre est en jeu. Rentrez chez vous, lui ai-je proposé. J'ai pas le droit de vous garder ainsi. Elle m'a arrêté. Et si j'étais tombé malade en arrivant, vous m'auriez soigné? Ben certes. Alors, je ne servais à rien. Maintenant j'ai un but, insister serait m'insulter. Obéissez-moi, c'est tout ce que je vous demande. Ne parlez plus, ne sortez pas vos bras, ne sors pas tes bras. 3 semaines s'écoulent. Je m'enfonce peu à peu. J'ai la tête d'un malade d'hôpital, la tête que je pressentais, et je deviens exigeant. Un jour, me dit-elle, j'enverrai promener les médicaments. Je n'attendrai pas l'avis du docteur. Je suis aussi savante que lui. J'ai mon instinct. Ce jour-là, tu trouveras l'aimé que tu as connu, une femme. Jusque-là, je t'en préviens, je serai un ange. Rien ne me rebutera. Tu peux me demander, comme hier, « Que faites-vous auprès de moi, madame ?» Je ne te répondrai même pas. Je ne suis pas ta maîtresse, et je vous donnerai tout de même des leçons, mon cher mien. Des leçons de santé. Ta tête travaille beaucoup trop. Ta femme, oui, ta femme, à quoi bon grimacer? Ta femme ne pouvait pas t'en donner des leçons de santé. Elle était trop fiévreuse, comme dit ce journal, trop sensible, trop artiste, trop toi. Ce qu'il te faut, c'est une cure d'effluves. Les miens te guériront, ils t'enlèveront ton mal. Nous partageons ma santé, et en retour, eh bien, en retour, tu essaieras de m'élever un peu, mais pas beaucoup. Assez pour que je te devienne pas seulement une maraîchère et une garde-malade, car tu ne m'aimerais plus. Non, ne réponds pas. Je ne veux pas que tu prononces un mot inutile. Tu dois épargner les paroles et les mouvements, comme un avare épargne ses pièces d'or. Je te trouve moins abattu. Elle ne me voit pas tel que je suis. La face creusée avec de pauvres yeux de mouton qui sent l'abattoir. Cette ombre d'amant, cet amant dérisoire qui ne l'a pas possédé, elle le lave, le gave, le maquille. Elle me coupe les ongles et les passe au polissoir. Elle a fait venir un coiffeur qui m'a rasé. Elle m'a apporté un pyjama de soie, feuille morte. La chemise que je porte a été festonnée par elle. Je suis un moribond, mais tout à fait coquet et gracieux. J'ai assisté, quand j'étais enfant, à une pantomime nautique. Un clown en saisissait un autre et le plongeait dans la piscine. Puis il en sortait. Le clown persécuté offrait, à la manière des masques antiques, deux grimaces. L'une de plaisir ineffable quand on sortait de l'eau, et l'autre d'horreur indicible quand on l'y replongeait. J'ai été cela pendant des mois. Et puis, en octobre, Aimé m'a dit « Oh, je ne serai plus ton ange pendant bien longtemps. Je ne sais si tu avais mérité l'ange, mais tu vas avoir à supporter la femme. Je t'annonce que le docteur ne viendra plus qu'une fois par semaine et qu'il va être question ici d'autre chose que de maladie. D'abord, pour changer, tu quitteras cette chambre. J'ai fait mettre deux lits dans la mienne qui est magnifique et dont j'entends que tu profites. C'est ainsi, tels sont mes ordres. Je ne veux plus entendre parler de cette chambre. J'entends que tu y laisses ta fièvre, ton mal, tes souffrances. Fin des potions, fin de la morphine. Il va falloir vivre, mon bel ami, avec tous les désagréments que cela comporte. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus mon enfant. » Mes 18 mois, m'avait assigné le professeur Cavagnol. Son diagnostic est infaillible. Encore quelque temps, être plongé et replongé dans la piscine jusqu'à la noyade définitive. Autant valait en finir tout de suite. Mon ennemi m'accorde des vacances. Je ne souffre plus guère. Voyons un peu cette tête. Pas trop vieillie. Aimé me coupe les cheveux en les laissant assez longs à l'artiste. Et j'ai l'air d'un violoniste qui aurait essuyé et essayé beaucoup de privations. « Pas d'hiver à Verfouille, » annonce Madame Barge, « Madère. Un si long voyage, je l'exige. Va pour Madère. Ainsi l'on perdra ma piste, je n'entendrai plus parler de rien. » Jeanne et Madeleine ont passé l'été en Bretagne avec Frédéric. Ce côté, tout est bien. Guillaume me confirme que l'énergie de Jeanne fait l'étonnement de tous. J'ai eu raison. De ma mort, elle ne se serait pas guérie. De l'orgueil ulcéré, on guérit vite. D'ailleurs, je le pressentais. Du fond de ma torpeur, j'étais réconforté par la convalescence de Jeanne. Elle applique toute sa volonté à oublier l'infidèle, l'ingrat. Elle l'oubliera. Trahi, bon, ce n'est pas grand-chose. C'est ce qui fait rire tous les jours dans les pièces. L'image de l'être aimé, on ne l'évoque plus parce qu'elle s'accompagne d'une autre image exécrée. Et la haine soutient jusqu'à ce que l'on n'ait plus besoin d'elle, jusqu'à ce que l'on continue sa route. Je suis content de moi. Pour vivre jusqu'au bout une existence noble, il faut vivre non pas dangereusement, mais difficilement. C'est merveilleux, l'île Madère, m'annonce aimé. Oui, capitale Funchal, vin renommé. Ton ami l'ours est désolé, il s'habituait à nous. Je lui ai juré que nous reviendrions. Ah, il va falloir convoquer le tailleur, t'as plus rien à te mettre. Et l'hiver suivant, nous irons en Égypte. J'ai retrouvé Verfouille au soleil frileux d'avril. À Funchal, je me suis débattu tant bien que mal, plutôt bien que mal d'ailleurs. Je rentre semblable aux apparences aux autres humains. Ma vue ne fait pas scandale. Quant à mon âme, elle est attendrie. Je retrouve avec volupté la douceur française, douceur du paysage paternel, douceur des habitants. Ainsi le cocher qui me sait malade fait un détour pour m'éviter la vue du cimetière. « C'est plus long, mais c'est plus joli, » explique-t-il. Guillaume nous attendait devant la grille, un Guillaume tout à fait dandy, radieux, et dont la tâche est un pavoisement. « Hip, hip, hurra !» Un court arrêt, la fille du jardinier m'offre des fleurs. On s'accorde à me trouver splendide. Aimé m'impose un repos complet de 3 heures. Après quoi, nous dînons seuls dans notre chambre. Elle a commandé les mets que je préfère et qui me sont favorables. Le crépuscule m'émeut. Aimé, il faut que je te demande pardon. Encore ? Mais combien de jours gâcherais-je ta vie ? Mais qu'aurais-tu fait de ces jours-là ? Mais tu n'as eu tout de suite qu'un infirme. Tais-toi ! Et si en partant, j'avais su que j'étais bien malade, que dirais-tu de cet abus de confiance ? Je dirais que j'étais oisive, que tu m'as trouvé une tâche et que je t'en remercie. Écoute, j'ai tenu à te faire l'aveu de mon passé. Après ma confession, je me suis demandé ce que j'allais devenir. Je me suis attaché à n'être que ton reflet, parce que je t'aime, parce que tu es bon. Je ne suis pas bon. Mais la preuve que tu es bon, c'est que la seule approche a suffi pour me transformer. Jamais on ne m'avait rien sacrifié. J'étais une pâture, je n'avais connu que l'égoïsme. Et dès que tu m'as proposé de partir avec toi, j'ai senti une douceur inconnue. Je respirais, qu'on soit tu, Étienne, je respirais. Tu me délivrais de l'asphyxie. Merci. Attends pour me remercier. Je ne te demanderai jamais rien. Le mariage, oh inutile. Je suis ta femme, la femme que tu as créée. Et je te guérirai parce que tu m'as guéri. J'essaye de ne plus l'écouter. J'enfonce mon visage dans l'oreiller pour cacher mon remords. Et maintenant, Aimé dans son petit lit à côté du mien. À Funchal, nous avons clair chacun notre chambre. Nous n'avons pas encore été réunis ainsi, dans le silence, dans la complicité de la nuit, sans que je délire, sans que je gémisse de souffrance. Les rôles sont changés. Ce soir, c'est elle qui est faible et qui tremble. Je ne t'ai pas ennuyé, au moins. Pourquoi es-tu si triste ? Bon, je ne sais pas. Je me repens à cause de toi. Après ce que je t'ai dit, après ce que tu m'as dit, une petite fille inquiète et qui cherche un refuge sur ma chétive poitrine, viens, à mon tour de te protéger. Je peux songer à elle, après tout, et parce qu'elle me croit au-dessus du mensonge, lui faire la charité de l'abuser jusqu'au bout. Je l'ai choisie au hasard, férocement, parce que je la méprisais. Et je la méprisais parce qu'elle s'était beaucoup donnée. Elle avait donné son corps, n'ayant pu retrouver à donner son âme. Et dire qu'il y a peut-être en toute femme ce trésor offert à tous et dont personne ne veut. Insensible dès qu'elle a vécu au milieu des heureux, aimée à rencontrer un malheureux, et comme elle le dit, je sentis une douceur inconnue. M'aimes-tu, mon Étienne? Depuis si longtemps, nous n'avions échangé que des propos pratiques, concernant mes crises, ma nourriture, mes remèdes. Elle s'effraie tout à coup de sa question. Elle a peur de ma réponse. Et pour l'éviter, elle pose doucement, humblement, sa bouche sur la mienne. Son baiser me supplie, que le mien l'abuse. Deux baisers, non, un seul, et qui s'enfièvre. Cette chair malade, cette chair qui va mourir, se reprend machinalement à vibrer au contact d'une chair saine et désirante. J'évoque Jeanne, ce n'est plus qu'un nom. Trahir, ouf, ce n'est plus qu'un verbe. Quoi que je fasse pour éveiller ma conscience, un homme et une femme se cherchent et se joignent en proie au seul délire de la vie, sans penser surtout, sans penser ni à ce qui a pu être, ni à ce qui sera. Deux bêtes qui se suffisent, de misères qui font tout de même une harmonie. J'irai à Paris. Ce que j'y ferai, je l'ignore. Je verrai ma fille et je l'embrasserai. Je peux traîner longtemps ainsi. Cette liaison, inspirée par la pitié et par la reconnaissance, me fait horreur. Et surtout, le plaisir que j'y trouve me répugne. Je ne deviendrai pas l'esclave de cette femme. Je me posterai, en tout cas, près de chez moi. Je verrai Jeanne, je verrai Madeleine, sans être vu d'elle, et je reviendrai. J'établis le plan de mon voyage. Il me faut compter avec la jalousie d'aimer, jalousie qui ne se manifeste point, mais que je devine toujours présente. J'insinue. Oh, j'ai bien envie de travailler. Mais travaille, je suis contente que ton oisiveté te pèse, bon signe. Seulement j'ai des manies. Il me faut le silence et la solitude. Mais tu as le salon. Oh, je te préviens, je m'enfermerai. Quand veux-tu commencer? Sur le champ. Tu devrais aller te promener avec Guillaume. Soit, j'irai le chercher. Ne te surmène pas, je te le promets. Fais une belle chose, que tu me joueras. Oui, oh, ce qu'elle voudra, pourvu qu'elle s'en aille. Elle part, me laissant installer devant le piano. Sois sage. Vite, je cherche un pardessus, un chapeau, je griffonne une lettre. J'ai dû aller à Paris, je reviendrai à minuit. Venez me prendre à la gare. Jeanne, Madeleine, l'impatience me gagne. Je me contrains cependant à attendre une demi-heure, et je sors. Le mal m'abattra peut-être demain. Il me révèle sa présence. Je suis encore là, tu sais. Je sais. Aujourd'hui, il ne m'aura point. Je sors, le col du pardessus relevé, mon feutre rabattu sur mes yeux. Quelle ivresse de se sentir libre, délivré du parfum d'aimer, sans soutien. Je plains les gens de Verfouille qui restent là. La gare. Je prends mon billet, je paye comme un homme, je traverse la salle d'attente, aimée est devant moi, livide. Je l'aurais parié, où vas-tu? Non, ne me questionne pas. Tu pars? Je reviendrai ce soir. Ou tu ne reviendras pas, jamais, je te promets. Aimée fait un signe. Et Guillaume sort de l'ombre. « Nous t'empêchons de commettre une imprudence folle, me dit-il. Mais suis-je prisonnier? Oui, tu es prisonnier de mon amour et de son amitié, me répondit Aimé. Et tu as la merci d'un évanouissement, appuie Guillaume. Accompagne-moi à Paris. Il ne t'accompagnera pas, proteste Aimé. Alors bonsoir, le train va arriver. Je te retiendrai. Tu n'ouïras pas ainsi mes efforts. Je ne t'aurai pas sauvé pour te perdre, tu entends. Un jeune livreur qui compile les caisses de fromage nous regarde intéressé. Je hausse les épaules. Mais je ne suis pas un enfant. Si, tu es un enfant, proteste Aimé. Tu as encore 10 minutes avant de prendre le train. Entrons dans la salle d'attente. Là, elle reprend. Où vas-tu? Une affaire sérieuse m'appelle à Paris. Quelle affaire? Le mariage de ma fille. Tu mens. Calmons-nous, conseille Guillaume. Cela n'avance à rien de se disputer. Aimé m'assied de force dans un de ces fauteuils de cuir tressés que recouvre une éternelle poussière. Il a chaud, regardez-le, Guillaume passe le soleil. Il n'a même pas encore porté un parasol. Voulez-vous lui expliquer? M'expliquer quoi? Vous n'osez pas, monsieur Cloquetier, ricane Aimé. Mais moi, j'oserais. Tu veux aller à Paris pour embrasser ta fille? Oh, une histoire. Sur un signe de toi, elle viendrait avant tout, comme cela se fait. Et tu sais très bien que je m'effacerais et que l'on ne me verrait pas. Non, ne joue pas au sentiment paternel, je te prie. Maintenant, tu entends, Étienne, maintenant, tu reviens à ta femme. Un désir t'avait éloigné d'elle. Le désir rassasié, tu la regrettes et tu as des remords. J'ai bien compris. Ce que je craignais tant est arrivé. Il fallait avoir la force de te refuser. Oh, tu n'as pas de plan précis. Tu vas revoir Jeanne et pour ce qui se passera alors, tu te fies au hasard, à la destinée. Tu reviendras peut-être à Verfouille. Peut-être n'y reviendras-tu pas. Cela dépend. Eh bien, si tu regrettes ta femme, il est trop tard. Mais je n'ai aucun regret. Trop tard. En t'empêchant de partir, nous t'évitons une surprise désagréable. Quelle surprise? Eh bien, ta femme a un amant. Et je sais qu'elle introduit une demande en divorce pour l'épouser. Guillaume est au courant. Je lui impose le silence. Je gagne le quai. La cloche qui annonce le train résonne dans mes oreilles avec un fracas de tonnerre. Je tombe et l'on me ramène à Marsanges. Jeanne n'a point d'amant. La vérité est moins romanesque. Elle a fait, l'été dernier, en Bretagne, la connaissance de M. Espoin Camarina. J'ai lu souvent ce nom dans les rues sur des haquets. M. Espoin Camarina est un gros entrepreneur. Leur mariage se fera après celui de Madeleine avec Frédéric. M. Espoin Camarina a 52 ans. Tout cela est logique, raisonnable. Guillaume a dépeint mon successeur. Un crâne d'ivoire, un bedon de propriétaire, une barbe confortable. Après une expérience, on se méfie des artistes. Je devrais me réjouir, en somme, et ma colère est grotesque. La cause, pourtant, en est assez noble. Telle que je l'ai façonnée, Jeanne ne peut trouver le bonheur à côté d'un tel homme. Mais elle n'a plus soif de bonheur. La paix lui suffit. Oui, on se méfie des artistes qui suivent la première venue. Tout est donc pour le mieux dans le plus bourgeois des mondes. La petite influence que j'ai pu avoir s'est déjà dissipée. Ma fille Madeleine n'a jamais compris que Frédéric était le plus grossier, le plus matériel des tâcherons. Elle m'a vu travailler. Elle a eu l'exemple de mes doutes, de mes scrupules. Et elle prend la béatitude imbécile de son fiancé pour la sérénité du génie. Ma fille, ma petite fille, qui partageait mes haines d'art ou qui me faisait semblant de les partager, ira ce tailleur de pierre qui avait de grosses soupes, fume de grosses pipes et fait un gros travail sans angoisse, sûr de lui et de ses pattes épaisses. Oh, ce sera un bon père de famille, sans doute, et s'il doit crever, il supportera point que cela se passe hors de la présence de Madeleine. On ne vit point pour l'élégance.
J'ai donc cultivé ma petite madeleine, cette fleur rare, pour l'offrir à ce rustre. Soit, j'envoie mon consentement. Et Jeanne sera Monsieur Espoin de Camarina. Je l'ai voulu. Ce dénouement, je l'avais prévu, mais moins rapide. Les renseignements affluent. Monsieur Espoin de Camarina, fort discret, a cependant donné à ma femme pour sa fête une splendide corbeille qui a fait l'admiration des domestiques et de la concierge. Ainsi, il lui témoignait qu'il était capable, lui aussi, d'une généreuse folie. 50 louis de fleurs. Et quel goût! Un panier immense, plein de violettes, de toutes les violettes ordinaires, blanches de Parme, et un autre soie violette pour couronner le tout. Rappel discret du double deuil. Car Monsieur Despoin de Camarina fut un infortuné mari. Après 2 ans de conjugaux, son épouse a décidé qu'elle ne pouvait supporter que les palaces. C'est une dame pour hôtel, une voluptueuse étrangère que l'on voit en Suisse avec un Espagnol, en Angleterre avec un Hollandais, en Sicile avec un Moldovan. Et elle ne s'intéresse point de fêter sa séparation. Il paraît que ma fille éprouve une certaine sympathie pour son futur beau-père. Monsieur Espoin de Camarina fait terminer en toute hâte un nid somptueux au Champ de Mars. Madeleine et Frédéric habiteront à côté, au 6e étage d'un immeuble cossu dont Monsieur Espoin de Camarina est propriétaire. Je devine en tout ceci l'influence de Frédéric, sculpteur lauréat, placide ambitieux, bourgeois d'art. Le public est, me dit Guillaume, satisfait. On aime avoir le vice puni et la vertu récompensée. Jeanne aura le collier de perles que la première Madame d'Espoin, Larina, lui a dû rendre. C'est le collier d'une princesse. L'entrepreneur l'avait acheté en 1917 pour une bouchée de pain. Oh, certes, il était riche avant 1917, mais enfin la guerre ne lui avait pas fait perdre la tête à cet homme solide. Avec lui, Jeanne sera à l'abri de l'imprévu. Pas d'orage. Monsieur Espoin de Camarina, pour la laideur et la sécurité, tient du parapluie de campagne. Aimé commente l'événement. Il faut un contrepoids à une nature excessive. Tu avais besoin de moi comme ta femme a besoin de ce monsieur. Et tu dois te réjouir que ton gendre ait ce que j'appelle une grosse nature. Les natures trop fines tombent dans l'exagération. Elles souffrent et font souffrir. La joie qu'elle pouvait à grand-peine contenir m'a irrité. Elle arrange les choses à son gré. Elle déforme la vérité avec l'aide de Guillaume. Je me reprends. Ces gens me parlent de Jeanne comme s'ils la connaissaient, mais moi seul je la connais. Je l'ai pétrie. Tout cela est impossible. Mais j'ai l'air d'approuver, de croire, je dissimule. Ma Jeanne dans le calvaire que je gravis. Il a fallu encore que je t'entendisse calomnier sans te défendre, mon seul amour. Il s'en va, vous savez, monsieur Cloquetier. Quelle imprudence! Oh, je ne le retiendrai pas. Étienne, tu m'as encore tombé, comme l'autre jour. Me ramasserai. Aimée est telle que je me représente monsieur Espoin Camarina. Un beau courage mis au service d'une belle placidité. Elle personnifie l'emploi du temps. Vers le soir, elle devient ardente et mystérieuse. Le matin, elle fait ses comptes. Si active, elle devine en moi quelque chose de fantaisiste, d'hostile, de dangereux, qu'elle s'est jurée de tuer. De l'ordre avant tout. Que rien ne cesse casser ne traîne. Or, il y a quelque chose de cassé dans mon cerveau. On me témoigne encore un peu d'indulgence, parce que je ne suis pas tout à fait déshabitué de la morphine. Mais comment me juge rétabli, aimé, qui a enfermé sous clé les fioles et les seringues, diminue la dose jusqu'à ne plus m'injecter que de l'eau distillée. Et hier, elle a triomphé.
Ça y est.
Quoi ?
Mais j'ai l'honneur de vous informer que vous êtes complètement désintoxiqué.
Oh, le beau mot ! J'improvise sur le champ la marche du désintoxiqué. C'est quelque chose de si bizarre qu'elle même empêche de continuer. En voilà une musique de Charenton. Le lendemain, elle déchantait. Je suis désintoxiqué, donc je deviens un homme comme les autres. Et cet homme comme les autres émet la prétention d'aller à Paris.
À ton aise.
Ni elle ni Guillaume n'ont pu me retenir cette fois. En effet, je suis bien désintoxiqué. Je n'envisage plus les choses sous cet angle comique qui me donnait d'irrésistibles et affreuses envies de rire. J'ai laissé dans la maison de Mazange ma vieille peau. Tout me semble frais et facile, comme si j'assistais à la naissance du monde. J'éprouve une sorte d'allégresse, un bien-être singulier, comme si j'étais délivré aussi de mon mal. Je ne vacille point. Aimée est devenue soumise.
Puis-je te dire à demain ?
À demain ? Elle ne m'a réclamé aucun serment. Elle a fait le geste d'ouvrir les mains en hésitant un peu, comme on les ouvre pour une bête mal apprivoisée, dans la crainte de ne pas la voir revenir.
Bien, va.
Et maintenant, le train roule. À Germeuil, un monsieur que je connais monte dans mon compartiment. Il m'apporte des nouvelles du monde.
Oh, par exemple, s'écrie-t-il, vous n'êtes plus aux Antilles.
Déblayons, non.
C'est bien beau, n'est-ce pas, les Antilles?
Oui, superbe. Le monsieur que je connais est ravi de cette rencontre. Il flambe de curiosité.
Vous êtes allé là-bas en garçon, eh?
Oui, en garçon.
Il paraît que les femmes sont ravissantes.
Gentil, oui, gentil vient d'Antilles. Charmant.
Et vous vous fixez en France?
Je me fixe sans me fixer.
L'oiseau,
l'oiseau.
On se reverra,
sans doute. Il fait celui qui n'est pas au courant et ajoute, faussement candide.
Et chez vous, tout le monde va bien ?
Très bien.
À propos, oh, mes compliments, votre fille se marie. Oh, la vie, la vie !
Il voudrait émettre quelques réflexions philosophiques au bout desquelles il accrocherait des questions précises, mais je m'accote et je ferme les paupières. Le monsieur que je connais est furieux. Quand le train s'arrête, il me le fait voir.
Je ai pris part, insinue-t-il.
À quoi ?
Eh bien, à tout ce qui vous est arrivé. Je vous ai plaint.
« Mais c'est tout à fait réciproque, cher monsieur. »«
Pardon, mais il ne m'est rien arrivé à moi. »« Je me flatte qu'il ne m'arrivera jamais rien. »«
Mais justement, il cherche une flèche bien pointue à me décocher. »«
Alors, un de ces jours, conclut-il. »
Et, tranchant, au hasard d'une nouvelle rencontre, car on ne me fréquente plus, mon imbécile se perd dans la foule. Je prends un taxi, je vais chez le professeur Cavagnol. Je retrouve le hall que j'ai traversé désespéré il y a 2 ans. J'affronte la lumière du cabinet.
Vous me reconnaissez, docteur ?
5 minutes d'examen, puis...
Mais vous pouvez vous rhabiller, me dit le médecin.
Je n'avais pas fait la part du miracle. Et il diagnostique...
Vous êtes guéri.
Je suis guéri. Alors je rentre chez moi auprès de ma femme et de ma fille. Je reprends ma place de vivant, ma place de mari, ma place de père. C'est simple. Aimée est énergique. Elle est habituée aux caprices de la passion. Et puis elle se consolera. Étienne Laroche juge soudain admirable les lois qui régissent l'humanité. J'entre dans un bureau de poste et je demande mon numéro de téléphone. La femme de chambre me répond. C'est vous, Eugénie ?
Non, c'est moi, Louise, que je remplace Mademoiselle Eugénie.
Ah, dites à madame de venir à l'appareil.
De la part de qui, monsieur ?
De la part de monsieur Laoche. La voix de Jeanne m'arrive étouffée, méconnaissable. C'est toi, Jeanne ?
Oui, c'est moi, Étienne.
3 secondes de silence, je reprends. Puis-je te voir ?
Oui, immédiatement. À tout à l'heure, Jeanne. À tout à l'heure.
La chère voix dont j'avais soif. Allons, le coiffeur d'abord. Je me fais beau. J'achète même une cravate. La mienne étant sans doute démodée. Pensez donc, une cravate verlouillaise. Les gens sourient de me voir sourire. Voilà, c'est un homme heureux qui passe. Étienne Laoche, homme heureux. Il n'était pas possible qu'un sort tragique me fût réservé. Je n'ai jamais fait de mal à personne. J'ai aimé les miens jusqu'à cette folie. Car c'était une folie, une sublime folie, mais une folie. Aux pires heures, je sentais confusément que j'étais protégé. Oh, cela n'a pas traîné. Oui, immédiatement, a dit Jeanne. Je lui expliquerai, pas de longues explications. La vérité. Voilà, Jeanne, je t'avais fait un sacrifice surhumain. Si sincère, si ému, je prépare mes phrases. Bon, notre baiser bouleversera tout, quand nous nous trouverons en face l'un de l'autre. Elle pardonnera. J'aurai traversé une épreuve. C'est fini, je rentre chez moi, entendez-vous, bonnes gens, chez moi. Bonjour, madame Moreau.
Oh, monsieur!
Je serre la main de la concierge. La plaque qui porte les numéros d'étage ressemble toujours à un domino usagé. Avant d'arriver au 3e, l'ascenseur a toujours une hésitation. Rien n'est changé. Je n'ai plus la clé, je sonne 2 fois. Frédéric vient m'ouvrir. Mon cher Frédéric! Je voulais l'embrasser, mais je me contente de lui serrer la main. Le maçon est timide. Mon gendre m'introduit dans le salon où je trouve Madeleine, selon un protocole réglé. Timide aussi, Madeleine, une jeune mariée. Je cherche son regard d'enfant.
Heureuse ? Oui, papa.
Oh, je t'embrasse.
Assieds-toi, papa, prends un fauteuil.
Elle est troublée au point de me faire les honneurs. Je comprends sa gêne. Je la vois pour la première fois avec son mari. Son mari, cette gamine. Vous habitez ici ?
Oui, monsieur.
Provisoirement, sans doute.
Oh, provisoirement, oui, papa.
Ta mère sait que je suis là. Je vais la prévenir, monsieur. Frédéric m'appelle « monsieur » avec bien de l'insistance.
« Tu as bonne mine, » commence Madeleine.
Mais elle s'arrête, soulagée. «
Ah, voilà maman !»
Et elle disparaît. Je me lève. Une porte s'ouvre. Jeanne. « Remets-toi, Étienne. Je suffoque. »«
C'est toi ? Mais c'est toi ?»
Les larmes me brouillent la vue. Je les essuie et je pleure de nouveau, plus fort. Un silence qui me surprend. Quoi ? Jeanne n'est pas dans mes bras ? Elle est debout devant moi. Je la regarde enfin. Ce n'est plus elle. 2 ans sans moi, elle est devenue celle que M. Espoincamarina devait choisir. J'en suis sûr. Elle est déjà à lui. Cette inflexion de voix appartient à l'entrepreneur. Elle me parle, je ne l'écoute pas. Je pleure silencieusement une morte. cette femme qui est devant moi, si dure, si implacable, bien qu'elle se tamponne le nez avec son mouchoir, c'est une inconnue qui n'a même plus d'hostilité, qui m'appelle mon cher Étienne, et qui veut à tout prix éviter mon lyrisme, mes exagérations, tout ce qu'elle partageait jadis, et que j'ai emporté avec moi. Il vaut mieux que nous arrangions ensemble ces formalités. Je suis contente que tu sois venue, et je dois te déclarer que je ne garde ni haine ni rancune. La passion t'a emporté. »
Elle parle de la passion comme d'un mot étranger dont elle a connu jadis le sens que l'on ne retrouve plus. Mais comprendra-t-elle? Essayons.
Jeanne, oh, ne revenons pas sur le passé. Je devine que tu vas y revenir. Je t'en prie, Étienne.
Et si j'avais pas été le criminel que tu crois?
Oh, criminel, c'est un bien gros mot. Les hommes, hélas.
Jeanne, je te supplie de ne pas me juger à la mesure des autres. Souviens-toi, tu m'avais dit souvent, je mourrai de ta mort. Je n'aurai pas besoin de me tuer, je ne pourrai pas la supporter, j'en suis sûr.
Ben, je ne vois pas. Attends!
Quoi? Chut! Elle va fermer une porte entrouverte, comme si je me préparais à dire une obscénité. Et elle consent.
Oui, j'ai pu dire ça, et après?
Et imagine que me sentant très malade, me voyant condamné par le médecin, j'ai voulu.
Quoi?
Oui, quoi? Jeanne véhémente m'interroge.
Tu as voulu partir avec une autre femme, m'abandonner, abandonner ta fille?
Elle se demande à quoi rime cette histoire abracadabrante, échafaudée avant notre entretien. Elle cherche, j'en suis sûr, une raison pratique à ce laborieux mensonge. L'attendrir pour obtenir des conditions matérielles plus douces. Elle se tait. Je traduis son silence. Hein, ça ne prend pas, jaillira si j'insiste. Ou elle ruinera mon histoire d'un ricanement. Et elle éclate de rire, en effet, en éclat de rire, qui a le zigzag de la foudre.
Tu as toujours des idées, s'exclame-t-elle.
Oui,
fantasque, je l'avoue.
Il faut m'excuser si je ris, j'ai perdu l'habitude.
Je te félicite. Parlons sérieusement et amicalement, Étienne. Je voudrais être tranquille.
Je laisserai cette dame tranquille.
Nous ne sommes pas dans le domaine de la poésie, m'annonce-t-elle. À qui la faute?
Je la prie de mettre son avoué en rapport avec le mien. Je ferai d'ailleurs ce qu'elle voudra.
Merci, Étienne.
L'audience est terminée. Sur un coup de sonnette, Madeleine et son mari reviennent. Ils me regardent. Ils avaient craint sans doute quelque excentricité. Mon calme les satisfait.
Madeleine, accompagne ton père, je te prie.
L'antichambre. Madeleine m'embrasse sur une joue, froidement, et sur l'autre, plus longuement.
Père, tu n'as rien à me dire?
Je balance, puis... Non. Elle a peut-être deviné l'éclair d'une seconde. Et je pars seul, nu et misérable. Mais j'aime mieux les laisser ainsi toutes deux, s'appuyant sur la plate réalité, ne donnant aux actes humains que des mobiles médiocres, ne voyant rien au-delà de la vie courante, ni des gestes ordinaires, aveugles, heureuses, mes chéries, mes pauvres chéries. Et moi-même, guéri, sorti de ma fièvre, j'aspire au moment où je ne comprendrai plus ma folie. On me soignera, je me soignerai, j'engraisserai, je n'aurai plus de cauchemars, je n'aurai plus de rêves, j'éviterai la douceur brûlante des souvenirs. Étienne Laoche, bien portant, Étienne Laoche, qui a fait beaucoup parler de lui jadis,
à cause d'une fugue inexcusable. Plus tard, dans quelque hall d'hôtel, je me heurterai à une famille épanouie. Monsieur et Madame Espoing Camarina détourneront la tête. Et un enfant inconnu, qui sera mon petit-fils ou ma petite-fille, tirera la robe de Madeleine et lui dira, en montrant mon dos résigné, « Maman, qui est donc ce gros monsieur qui a du chagrin ?»